migratoires, de flux financiers, de flux énergétiques. Bon, on a aussi l'impression qu'il y a des flux naturels. Donc c'est des phénomènes. Internet, c'est un flux. Donc des phénomènes extrêmement hétérogènes, des phénomènes qui correspondent à la nature, des phénomènes qui correspondent au corps humain, des phénomènes qui correspondent aux techniques, donc des domaines qui sont antagonistes. C'est pas la même chose. On va utiliser le même mot pour désigner des choses extrêmement différentes. Donc déjà, pourquoi on utilise le même mot pour désigner des phénomènes aussi différents? Et globalement, quand on parle de flux, on a tous... Bon, vous savez qu'on utilise le langage, on ne crée pas les mots, on en hérite, et on a un sens commun. Les flux, ça voudrait dire globalement, vous me dites si j'ai tort, et si vous le percevez autrement, un écoulement continu. C'est-à-dire quelque chose qui est continuel, qui n'arrête pas de couler. Et qui a plusieurs caractéristiques. D'abord, il serait puissant. Et il serait imprévisible, il serait incalculable. D'où le fait qu'on associe souvent le mot flux à des choses qui peuvent faire peur. Hein? Quand on parle de flux financier, en général, juste après, on va condamner le capitalisme, automatiquement. Si on parle de flux migratoire, en général, ce qui va suivre après va être nauséabond. Bon. Donc c'est en général quelque chose qui fait assez peur. Globalement, c'est un mot, avant d'être conceptuel, c'est un mot affectif. Les mots, ils déclenchent des affects, ils déclenchent des sentiments. Ce sentiment qui nous prend quand on utilise le mot flux, hein, c'est quelque chose qui dépasse notre pouvoir, quelque chose qui ne serait pas totalement humain et qui mettrait en cause notre souveraineté, notre capacité d'agir. Quand on utilise le mot flux, souvent, c'est pour désigner une limite politique. Bon, il faudrait que les politiques s'occupent de ça, parce que c'est un flux et on ne sait pas quoi en faire. Alors, je vais suivre une séquence vidéo, je vous demande... d'écouter avec... parce que cette séquence est un symptôme. Je suis désolé de vous faire subir ça.
D'une son opposition, il a eu cette expression, le grand déménagement du monde. Il faut résister au grand déménagement du monde. Sauf que dans ce grand déménagement du monde, il oublie les flux migratoires. Et l'Europe, c'est cela la grande douleur. Pour beaucoup d'Européens, c'est que, au lieu justement de constituer un bloc, c'est un mot qu'il faut entendre, c'est-à-dire quelque chose de solide, l'Europe n'est là que pour faciliter les flux. Et elle se transforme, cette civilisation, dans laquelle j'inclus personnellement les nations, Et se constituant en une espèce d'espace qui veut être de plus en plus fluide. Or, on n'habite pas les flux. On n'habite pas les flux. Et c'est cela.
On n'habite pas les flux. Alors, extraordinaire phrase, on n'habite pas les flux. Il y aurait une opposition entre le fait d'habiter quelque part et les flux. Ces personnes disent ça alors qu'elle est sur un plateau de télévision, alors qu'elle est entourée de fils électriques, alors qu'elle est dans une ville, donc entourée, en dessous il y a des égouts, au-dessus, il y a des fils électriques, il y a des câbles partout, il y a autour de lui, hors champ, des flux partout, mais on n'habite pas les flux, et lui habite les médias. Bon. Donc il y a quelque chose de là, très paradoxal, et puis vous voyez bien, il y a l'opposition entre le bloc identitaire, hein, on peut parler de bloc identitaire, et puis cette société de la fluidité, on connaît bien cette opposition, puisque notre société est prise entre deux choses, l'exigence de la fluidité, hein, la Startup Nation, faut fluidifier, faut que ce soit plus simple, faut que ça coule, et en même temps, le fait que les flux, c'est ce qui nous déborde, et c'est ce qui peut nous faire peur, par exemple, sur la crise environnementale. Alors, vous comprenez bien ce que je vais essayer de vous proposer, dans le temps qui m'a imparti, donc c'est impossible, tout de suite. Déjà, cette conférence est un échec d'avance, c'est de complètement essayer de redéfinir les flux, de A à Z, de détruire cette image des flux, de détruire le sens commun et de proposer une autre définition des flux pour essayer de faire plusieurs choses. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que sur les flux, il y a un gros paradoxe, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet, c'est qu'en même temps, dans l'histoire de la pensée, ancienne mais aussi contemporaine, c'est un mot qui n'arrête pas de revenir, mais il y a très peu d'ouvrages, à ma connaissance, il y a très peu d'ouvrages qui portent spécifiquement sur ces objets. Bizarrement, depuis Lucrèce au moins, ou Parménide, les flux c'est très important, mais il y a très peu, et il y a des philosophes qui ont fait de ce concept, un concept fondamental, Bergson, Deleuze, bon, il y en a plein, hein, c'est pas Parménide, Lucrèce, etc. mais il y a très peu d'ouvrages spécifiquement sur ce sujet, donc il y aurait presque un angle mort conceptuel. Alors, c'est vrai que je vais essayer de dépasser aussi, vous avez peut-être dû en parler, je suis désolé, je suis arrivé qu'hier, bon, j'ai pas vu les autres conférences, mais la société de la fluidité par rapport au postmodernisme et toutes ces questions. Donc je vais laisser tout ça de côté, ces questions de postmoderne, anti-postmoderne, et ce qu'a écrit Gilles Lipovetsky sur les flux. Je vais laisser ça de côté parce que je trouve ça d'une imprécision. Enfin, quand on parle des flux, on ne sait jamais très bien de quoi on parle. Et je vais vous proposer trois choses. Je vais essayer, projet impossible. Donc je vais élaborer une nouvelle définition des flux qui va être fondée sur la reconstruction historique du concept et de ce que désigne ce concept. C'est-à-dire que c'est un concept qui a une histoire, qui vient de quelque part. Pourquoi c'est si important, selon moi, pourquoi c'est vraiment fondamental de comprendre ce que c'est aujourd'hui. Ensuite, comprendre quels sont les points communs entre tous les objets qu'on désigne comme des flux, alors que ces objets sont très différents, la nature, les corps humains, la technique, qu'est-ce qui unifie ces trois éléments. Et puis enfin, essayer, j'aurai pas le temps, de savoir ce que sont devenus les flux à notre époque. Est-ce que notre époque aurait, est-ce que ce serait une époque particulière des flux? Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'il y a une épocalisation, on peut créer des époques autour des flux, et qu'aujourd'hui, le moment qu'on vit serait très très particulier par rapport à ça. Alors, je vais donc vous proposer de naviguer dans cette histoire, donc à mi-chemin entre le concept et les phénomènes concrets. Donc, trois sortes de phénomènes au cours de cette histoire, qui se rend, alors qui sont comme des polarités. Je vais le présenter de manière très lapidaire. Hein. Je pourrais apporter toutes les précisions, vous m'excuserez, le temps est très limité. Donc ce sera très lapidaire, parce qu'il y a toujours un peu d'étroit à toutes les époques, mais c'est plutôt des proportions qui augmentent, qui diminuent, des vases communs. Donc la physis, la nature, le soma, le corps, et la techné, la technique. Et on va voir ça évoluer, ça au cours du temps. Et on va voir chaque époque glisser l'une par rapport à l'autre. Et une époque, moi en parlant du passé, mon hypothèse c'est pas de parler du passé, c'est de voir qu'est-ce qui dans le passé est encore en réserve, qu'est-ce qui n'a pas été encore développé dans le passé. C'est pour ça que le passé, on peut parler d'avenir avec ça. Alors, je vais commencer par, bien sûr, ce moment fondamental qui est peut-être le secret de l'Occident, comme disait Hegel, qui est l'Égypte antique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène remarquable dans l'Égypte, qui est donc l'invention d'une civilisation avec un pouvoir incommensurable. C'est que la civilisation égyptienne s'est fondée sur les flux. S'est fondée purement et simplement sur les flux, sur le flux du Nil. C'est-à-dire le Nil qui est en crue et en décrue. Et toute l'économie qui s'est développée en Égypte ancienne a été fondée non pas sur la maîtrise comme contrainte du Nil, parce que c'est impossible de contraindre le flux, comme vous allez le voir, a mis des passes, mais le fait de vivre avec le Nil et le fait de convertir, de transformer ce qui peut tuer, c'est-à-dire que la crue du Nil s'en remportait les corps, en quelque chose qui va donner la vie. Parce que une fois que la crue est passée, les limons apparaissent et là on peut cultiver le Nil. Donc ce qu'on voit apparaître là, à ce moment-là, c'est un phénomène fondamental, c'est le fait que les civilisations se créent autour des flux. Donc les flux, ce n'est pas quelque chose qui vient après une civilisation, ça se crée toujours autour d'un flux. Parce qu'une civilisation, c'est une ville, et une ville, c'est des entrées et des sorties. Il faut faire rentrer des flux, et il faut en faire sortir des flux. Bon. Ce rapport au Nil est extrêmement intéressant, parce qu'il y a un rapport d'alternance, de vie et de mort. Ce qui donne la mort, la crue, c'est-à-dire ce qui peut noyer les corps, va donner la vie, la culture. Et il y a un lien très fort entre, d'un côté, cette réalité matérielle, phénoménologique du Nil, la construction d'un empire et la capacité qu'ensuite les Égyptiens ont eue de créer une civilisation fondée sur la vie éternelle, c'est-à-dire sur une vie sans mort. Et il y a un lien parce que, bien évidemment, il a fallu la richesse du Nil pour que le royaume des pharaons puisse se développer et qu'ils aient les moyens concrets, économiques, pour développer les pyramides. Et on peut dire que les Égyptiens sont devenus réellement immortels, puisque aujourd'hui on a encore leur sépulture. Donc ils ont réussi ça. Et donc il y a un lien entre d'un côté le caractère très matériel du flux et un caractère assez spirituel de promesse de vie éternelle, qui n'est pas bien sûr la promesse de vie éternelle chrétienne, elle est assez opposée, puisqu'il s'agissait dans leur vie de ne faire que préparer la mort, alors que, voilà, c'est un peu différent. Alors je signale juste que, amusant à notre époque, Dans l'Égypte ancienne, il y avait, à cause de la crue du Nil, il y avait des maisons, qui étaient donc des maisons de paysans au bord du Nil, et qui, au moment de la crue, se transformaient en bateaux, et qui flottaient. Et que, on nommait, que apparemment, je ne suis pas d'étymologie, je ne suis pas un égyptologue, on s'en fout, mais la racine, le mot égyptien utilisé pour ça, c'est le même mot, la même racine que le mot grec arché, donc qui veut dire origine, mais qui veut dire aussi le coffre, le cercueil, le tombeau. Les deux à la fois. Et le fait que, comment dire, bien sûr, on peut penser que ça, c'est l'une des origines de l'Arche de Noé, de tous ces récits d'effondrement qu'on a eu. C'est-à-dire que le premier effondrement, c'est le Nil quand il déborde, quand le flux déborde. Et on est, on y reviendra, mais dans une époque où beaucoup de gens développent, à tort ou à raison, la question de l'effondrement. Alors, de là, je ne cite jamais Deleuze, jamais, j'essaie de l'éviter, parce qu'il est trop cité, parce que le réseau, je n'en peux plus. Mais là, je le cite, je vais vous dire pourquoi. Donc, il écrit « Une société n'a peur que d'une chose, le déluge. Elle n'a pas peur du vide, elle n'a pas peur de la pénurie, de la rareté, sur elle, sur son corps social. Quelque chose coule et on ne sait pas ce que c'est. Quelque chose coule qui ne soit pas codé et même qui, par rapport à cette société, apparaît comme non codable. Quelque chose qui coulerait et qui entraînerait cette société à une espèce de déterritorialisation qui ferait fondre la terre sur laquelle elle s'installe. Alors, ça, c'est le drame. Alors là, je marque mon désaccord avec Deleuze, allons-y, puisque par l'Égypte, nous savons, je crois que nous savons, que la civilisation se fonde sur les flux, c'est-à-dire sur le fait que les flux du fleuve font fondre la terre, et qu'il n'y a de civilisation que fondée là-dessus. Et qu'il n'y a de civilisation que fondée sur du non-codable. Il n'y a pas une opposition, disons que Deleuze fait la part très belle à l'anomie, à la normalité, à l'événement, à la singularité. Le deuxième moment, je crois, alors c'est très très lapidaire, hein, j'entends bien, il faudrait moduler ça, mais c'est pour donner des grands schémas, c'est la Grèce antique qui va donner un tournant fondamental au flux, puisque je vous l'ai déjà dit, toute cité est fondée, à mon avis, sur une hydrologie, c'est-à-dire sur une flanc, une science des flux, où il faut gérer les flux en entrée et en sortie. Dans la Grèce antique, le premier flux qui est mis en avant, c'est le flux marin. Les Grecs sont étaient des grands navigateurs. Le flux marin qui était considéré comme quelque chose d'immense et d'inhabitable, d'où la phrase de Pickelcrote, « efflux, c'est inhabitable », très grec dans ce sens-là, quelque chose d'indifférencié et qui peut tuer. Parce que le mot peut dire les flots marins, kuma, ça veut dire aussi l'eau salée. Et l'eau salée, quand on boit de l'eau salée, on peut mourir. C'est un lieu où, si on boit l'eau, on meurt. Dans tous les récits, bien sûr, de naufrage, etc. Et il y avait chez les Grecs une idée qui était l'impossibilité de réguler, de maîtriser ce flux marin immense. Et là, il va y avoir une invention, c'est-à-dire que vous savez, pour ceux qui sont navigateurs, certains le sont, l'eau, c'est, la mer, c'est indifférencié. Ça me semble très homogène, et en même temps, il y a plein de petits détails. Et les navigateurs, pas seulement Grecs, mais d'autres, vont passer d'une topologie du regard d'horizon de la mer, au fait qu'ils vont élever le regard vers le ciel, ils vont voir la voûte céleste, et ils vont voir d'autres flux qui sont, eux, cycliques, qui sont, eux, réguliers, qui sont les étoiles qui vont permettre aux navigateurs de naviguer, de s'orienter dans cette masse indifférenciée. Donc on va passer topologiquement de l'horizon au ciel. Bien évidemment, vous comprenez bien que ça a à voir avec l'histoire de la pensée, puisque si Platon, entre autres, dit que le monde ne s'explique que grâce à quelque chose qui n'est pas là, qui sont les formes idéales, le pur concept, c'est parce qu'il y a cette désorientation du regard grec qui va expliquer le désordre du monde marin par l'ordre céleste. Donc on va chercher, à dépasser le désordre terrestre pour aller vers l'ordre céleste. Et on va transformer des mouvements qui sont totalement instables, qui sont les mouvements des flots, en mouvements stables, qui sont des mouvements cycliques, c'est-à-dire des mouvements répétitifs, qui se répètent dans le temps. Et donc, comme ils se répètent, la calculabilité est possible. Et ça va avoir une conséquence majeure sur l'histoire des flux, c'est que les flux vont sortir de la science, vont purement et simplement, jusqu'au 19e siècle, les flux ne vont plus être étudiés. les équations de Napier sur les flux, c'est 19e, 20e siècle. Et pendant des siècles, les flux vont partir au domaine technique, purement au domaine technique, c'est-à-dire comment on gère les flux concrètement, on les fait rentrer, on les fait sortir. Et la science ne va plus du tout s'occuper des flux parce que ce sera l'imprévisible. Et elle va s'occuper du calculable et du céleste. Globalement, voilà. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais c'est un peu l'idée de ce renversement topologique et de ce que j'appelle le désordre, c'est-à-dire ce rapport entre l'ordre et le changement de désordre. Alors, donc j'ai pas le temps de parler de Lucrèce, dommage pour moi, parce que c'est la grande théorie occidentale du flux, Lucrèce, c'est vraiment la théorie du Climénène, c'est l'une des seules grandes théories totales de la vie du flux, c'est absolument passionnant. Michel Serre a écrit un livre formidable sur Lucrèce, vraiment je connaissais mal Michel Serre, c'est un livre incroyable sur Lucrèce. Alors il écrit « Je ne parle pas du climat, mais des météores, nuages, pluies et trombes, chute de grêle ou giboulée, direction et force du vent, maintenant et ici, je ne parle pas du vent dominant, les météores sont des accidents, des circonstances, voisinage hasardeux, environnement événementiel de l'essentiel d'instance. Ça n'intéresse que les gens dont les doctes se désintéressent, les paysans et les marins, ceux que les savants rencontrent en vacances, lorsque les affaires à un préjuge sérieux sont renvoyées au lendemain. » Donc on n'est pas dans l'ordre de la connaissance scientifique, on est dans l'ordre de la pratique. On est dans l'ordre d'un savoir pratique qui est celui du marin, du paysan, qui sait ce qu'il en est. Les scientifiques, les philosophes ne savent pas ce qu'il en est, ils ne peuvent pas le savoir. Le troisième grand moment, à mon avis, là on passe du flux physique, la nature, au flux corporel. Bien évidemment, les flux deviennent corporels, deviennent quelque chose de subjectif, avec l'invention du christianisme. Alors bon, c'est un grand trait, hein. Vraiment, on pourrait détailler ça. Le fait d'oublier le fait que les flux, le fait de transformer les flux en quelque chose de céleste et pas de terrestre, ça va entraîner aussi une autre idée qui est que l'ordre céleste doit se retrouver à tous les niveaux de la vie, à tous les niveaux. C'est la fameuse idée un peu du sens commun. Le corps, c'est comme un univers avec ses atomes. Il y a un changement d'échelle. Ce qu'il y a dans l'univers, c'est au niveau du corps, c'est au niveau à toutes les échelles, c'est la même chose. C'est-à-dire que le corps serait comme le reflet miniature de l'univers. C'est une idée qu'on retrouve dans les fondements de la médecine et entre autres chez Hippocrate. Alors, il y a une grande théorie qui va régner jusqu'au 18e, 19e siècle, c'est la théorie des humeurs, la théorie humorale, qui est une théorie des flux corporels. Et qui va consister à faire une équivalence entre les composants de l'univers, les grands composants de l'univers, l'air, le feu, etc., et les composants du corps. Il y a une équivalence entre les deux. Et quand on est malade, c'est parce que l'équilibre entre ces éléments est défaillant. Il devient aberrant. Et puis, pour résoudre ça, on enlève l'excès de flux grâce à la méthode de la saignée. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, la saignée, c'est une espèce de panacée. Ça consistait à faire saigner quelqu'un artificiellement pour lui enlever l'excès de flux et les mauvaises humeurs qui lui donnaient la dépression, etc., etc. Donc toujours dans l'idée comme une ville qui aurait eu trop de pourriture ou de poubelles dans ses égouts et qu'il faudrait purger. Il faudrait enlever les mauvaises humeurs. Avec l'idée qu'il s'agit d'extirper du corps un excès, parce que l'excès, c'est la partie effrayante des flux, c'est la partie incalculable, c'est la partie qui peut nous déborder. Ça veut dire que les flux ne sont absolument pas un écoulement continu, mais les flux sont un écoulement discontinu, et c'est cette discontinuité-là qui nous fait peur. C'est pas la continuité qui nous fait peur, c'est la discontinuité. Je passe sur Jacques Derrida. J'abandonne Jacques Derrida. Et je vais tout de suite aller vers le Christ, si vous voulez bien. Bien qu'il y ait une souffrance en rapport. Donc jusqu'au XVIIe siècle, la saignée, c'est la panacée médicale. Il s'agit de retrouver l'équilibre, de retrouver une fluidité, indépendamment du tumulte des flux. Donc il y a une opposition entre fluidité et flux. C'est pas la même chose. D'ailleurs, les flux, c'est souvent pluriel. La fluidité, en général, c'est simple. Il s'agit de faire une incision. Et cette incision va trouver, bien sûr, dans la figure du Christ, l'incarnation majeure de la saignée et l'incarnation majeure d'un corps enfoui. Pourquoi ? Très rapidement, on va faire toute la théorie christique qui est compliquée, la mythologie christique est compliquée, celle de la passion en particulier, c'est que le corps du Christ saigne. Le propre du corps du Christ, c'est qu'il n'arrête pas de saigner. Il n'arrête pas de saigner. Or, quand un corps s'arrête de saigner, c'est qu'il est mort. Il est mort parce que ça ne s'écoule plus. Donc, l'immortalité matérielle du Christ, c'est ce sang qui n'arrête pas de s'écouler. D'ailleurs, quand les, comment on appelle ça dans le christianisme, les objets qui ont touché le Christ, les reliques qui auraient touché le sang saignent aussi. Le corps des croyants aussi, avec les stigmates, n'arrête pas de saigner. Et par ce sang-là, c'est le sang du Christ qui continue de saigner. La fameuse histoire du soldat romain, je pense, qui, avec une lance, perce le flanc du Christ. Et là, c'est de l'eau qui en sort. Parce que l'eau, c'est l'eau du baptême. Et c'est la nature spirituelle du Christ qui arrive. Et on voit, bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de représentations religieuses où les larmes, c'est des larmes de sang. Donc c'est des larmes matérielles. Parce que l'eau, c'est toujours le spirituel. Donc c'est un corps qui n'arrête pas de saigner, et qui n'arrête pas de saigner dans le corps du Christ, mais dans le corps du croyant, puisqu'on boit son sang lors de la messe. On boit le sang du Christ. Des vampires, hein, aussi, évidemment. Alors, donc, le miracle christique, c'est de rendre indemne le corps vivant, parce qu'il est matériel et spirituel. Et puis, il s'agit de créer un corps qui n'existe pas, un corps qui n'arrête pas de s'écouler. Un corps, non pas des flux, mais de la fluidité. Donc, ce qui va parfaitement s'agencer avec la société bourgeoise et capitaliste. Alors, peut-être les enfants ont une image un peu difficile, s'il y a des enfants dans la salle. Je ne voudrais pas remplir table, c'est une image un peu dure. Mais c'est une figure très connue, une photographie très connue d'un supplice en Chine, qui a fait un attentat contre l'empereur, et qui est donc ouvert à vif, que Georges Bataille, dont Georges Bataille avait parlé comme un moment de terreur et d'extase. Et qui est effectivement ce moment très très terrible de saigner et de vivre et de mort. Et du moment, et c'est ces flux-là qui nous font peur. C'est ces flux-là, c'est le moment où, c'est le flux du Nil. C'est la vie et la mort à la fois. C'est la vie, c'est la mort. Et la réponse qu'on va apporter, nous, c'est la mort, est-ce que ce n'est pas la vie ? Et puis d'autres figures christiques, bien sûr Alien, très important. Parce que Alien, c'est un film sur, pas sur les flux, sur la barre. Sur l'écoulement. Bon, moi j'ai écrit tout un texte sur Alien, et comment Alien fait fondre l'espace quotidien avec sa barre. La barre d'Alien fait fondre le métal, et c'est pour ça qu'on ne sait pas d'où il va arriver, c'est qu'il fait fondre le métal alors que les êtres humains sont dans un espace quotidien. Vous savez, il y a des couloirs avec des portes qui s'ouvrent, donc un espace totalement géométrique. Voilà, on retrouve ça. Troisième moment, là on arrive à la technique. Voilà, la technique elle commence. Et on va passer doucement du corps à la technique, on glisse du corps à la technique avec le flux, avec cette idée hallucinante au XVIIe siècle, qui est l'idée de la zootechnique, qui va être une idée, la théorie de l'animal-machine chez Descartes, qui est l'idée très simple, qui vient du Christ, hein, qui vient de la théorie chrétienne, qui est si les animaux n'ont pas d'âme, alors leurs mouvements sont automatiques, et ils doivent être décrits comme un système géométrique et mécanique. Ce qui permet de faire circuler ce système géométrique et mécanique, c'est les flux, c'est le sang. C'est le sang qui permet de faire ça. Et jusqu'en 1820, globalement, c'est la théorie qui règne pour comprendre le monde. Jusqu'en 1820, très très rapidement. Les animaux, c'est des machines qui sont une espèce de géométrie vivante, grâce au flux sanguin. Donc voilà. Et donc on a bien sûr le canard de Vaucresson, très connu. Ce qui est très intéressant, c'est que le canard de Vaucresson simulait l'appareil digestif, c'est-à-dire la production de merde, c'est l'objectif. Et c'est pas une idée, quoi. C'est une idée qui va être reprise par des artistes contemporains, mais le fait de considérer que le signe du vivant, c'est la production de merde, c'est assez intéressant, parce que c'est la production d'une transformation, quelque chose qui est transformé. Quoi qu'il en soit, par cette image-là, l'animal-machine, on passe insensiblement du Christ, du corps christique qui n'arrête pas de s'écouler parce qu'il est spirituel, à un corps dont on explique l'écoulement grâce à la mécanique, et qui est l'animal. Et donc, on va commencer à lier la question du corps et de la mécanique. Alors, autre séquence d'animal.
Was got to be a way of killing it. How do we do it?
Scène géniale, puisque là on a le robot décapité avec des flux sur lui séché et qui est du flux du lait en fin de compte. Et il se trouve que. Alors pourquoi du lait? Parce que c'est blanc, c'est du lait, c'est le lait. Le vaisseau spatial dans Alien s'appelle Bob, maman. Et lui, c'est le fils du vaisseau spatial. Donc il a ce lait-là, et quand il va mourir, il va y avoir des giclées de lait du robot, donc des flux. C'est un animal machine. Et parce qu'il n'arrête pas de couler. Alors, je ne vous montre pas la fin de la scène, mais il régurgite encore, alors qu'il est mort, il régurgite encore de ça. C'est un animal machine. Alors, pas le temps d'aborder la physiologie du 19e siècle, je suis encore dans les temps. Alors, le quatrième moment, on arrive juste à l'époque moderne, c'est ce phénomène d'industrialisation qui marque l'entrée dans l'autre monde, un monde très très étonnant. Au 19e siècle, donc les flux ne vont plus être naturels ou corporels, mais vont devenir énergétiques. L'obsession du 19e siècle, c'est l'énergie. Et l'idée de l'énergie, qui a une longue histoire, donc Aristote, avec l'énergia, c'est une idée qu'on y pense bien, ça me semble un concept abstrait, mais c'est une idée hallucinante. C'est le fait que toute matière quelle qu'elle soit, est transformable en quelque chose qu'elle n'est pas. C'est-à-dire de l'énergie. On peut brûler de la matière pour créer de l'énergie. Et le fait, vous comprenez bien, de passer des flux terrestres qui sont divers, qui sont incalculables, où chaque flux est singulier, où on ne peut pas le résumer sous une loi, à un principe actif, matériel, concret, réel. C'est pas, on ne parle pas de concept, on ne parle pas de philosophie, on parle de quelque chose qui opère. Le vidéoprojecteur, c'est de l'énergie. Qui fait qu'on peut considérer toute matière sur un point de vue unique, qui est un seul point de vue, une seule, les kilojoules. C'est tout. C'est tout. Toute matière est kilojoule. Et d'ailleurs, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés fossiles, nos énergies fossiles, c'est la production de cette énergie. C'est le fait que nous transformons plus d'énergie de ce que notre matière peut supporter, d'une certaine manière, et que l'on va finir par s'éteindre à cause de ça. Alors, c'est une mobilisation donc totale des ressources terrestres, où l'industrialisation va transformer la Terre, les montagnes vont être arrachées pour faire des mines, les forêts dévastées pour faire des chemins de fer, qui va aussi aller avec une automatisation de la corvée humaine, des corps, Grégoire Chamaillou, j'ai pas le temps de le citer, parlerait de corps avilis, où la tâche humaine, le travail humain, va être considéré aussi du point de vue de l'énergie, avec le métier à tisser, et où on va découper le travail, non plus en travail, mais en tâches, en micro-tâches. C'est l'usine, hein, vous voyez, fait une tâche, il ne travaille plus, il fait une micro-tâche. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte à la machine, il est une pièce de la machine. Et puis on va créer plein de voies de passage, des routes, des tuyaux, des fils, pour permettre l'arrivée des matières premières et la sortie des matières produites. Système encore de flux d'entrée et de sortie. Donc il y a tout un espace-temps qui se crée, dans lequel on vit encore, qui est une espèce de fluidité, mais décomposée, en micro-tâche. Et le monde industriel va réellement changer la Terre. C'est-à-dire, on survole la Terre après le monde industriel, on voit effectivement une trace d'industrialisation. J'ai mis là Heidegger. Cette phrase, je l'ai mise parce qu'elle décrit bien le monde industriel. On va discuter d'Heidegger en moment, mais je passe ce sujet. La centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique, qui somme à son tour les turbines de tournée. Ce mouvement fait tourner la machine, dont le mécanisme produit le courant électrique, qui est là, pour laquelle une centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de Bois, c'est-à-dire quasiment le Nil égyptien, hein, on ne s'adapte plus au flux de la rivière, qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. C'est qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir un fournisseur de pression hydraulique, c'est-à-dire d'énergie. Il est par l'essence de la centrale. C'est-à-dire qu'on considère le Rhin comme un potentiel énergétique pour la centrale. Et effectivement, c'est ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui. Alors, je vais absolument pas avoir le temps de remonter aux origines, la question de l'énergie, etc. Mais c'est une question passionnante, je trouve, parce que c'est parce qu'on en a besoin, hein. Mais ce que je peux juste signaler, c'est qu'en tout cas, cette époque des flux de l'industrialisation va entraîner un phénomène très étrange, c'est la confusion entre les flux techniques et les flux naturels. Les flux techniques vont devenir naturels, concrètement. concrète, puisqu'elle s'inscrit sur la terre. On pourrait relier ça aussi, ce sera assez intéressant, à la thermodynamique, qui est comme la grande théorie énergétique 19e, dans laquelle on est encore, et avec plein de théories, je veux dire Freud, la dépression, c'est de la thermodynamique. La thermodépression, c'est quand le couvert ne tient plus, quoi, finalement. Il y a des bouffées qui sortent. Donc, de toute façon, la métaphore thermodynamique dans la psychanalyse, c'est très clair. Chez Husserl, c'est la même chose, et ainsi de suite. Bon, je rentre maintenant dans notre monde. Et je vais essayer de montrer que le monde dans lequel on vit est très particulier, c'est un monde de fou, très particulier. Alors, bon, bien évidemment, j'ai été beaucoup trop ambitieux, donc je suis à 32 minutes, donc j'ai 8 minutes pour vous parler de l'homme. Et puis, il fait chaud aussi. On dégage de l'énergie tous. Alors, je vais juste essayer de montrer que notre époque est particulière parce qu'elle est la configuration de tout ce qui précède auparavant, c'est-à-dire des flux naturels, des flux corporels et des flux techniques en un seul flux, qui est le flux de la machine. Alors, donc très très rapidement, vous connaissez tout ça, hein, donc les fameuses calculatrices, hein, c'est-à-dire les premières personnes qui ont utilisé les ordinateurs, c'était des femmes, une histoire un peu oubliée, puisque le domaine de l'informatique est devenu très masculin. Alors, au-delà même de la nature et de l'énergie telle que s'est développée au XIXe siècle, le code informatique va opérer un truc incroyable, c'est la simplification de tout en 0 et en 1, courant et pas courant. Alors c'est un phénomène tout simple, allié avec la vitesse, qui fait que la manière dont c'est codé, c'est imperceptible pour le système nerveux humain. Le système nerveux humain ne peut pas percevoir la manière dont la machine code les choses. Et il se trouve que tout va être codé de cette façon-là, tout. Ce qui ne veut pas dire que tout était du code. Ça ne veut pas dire qu'on devient pythagoricien et que la nature, c'est du code informatique. Non, c'est que tout est codable. Ce qui est très différent. C'est une action, c'est actif de coder. C'est pas, on ne découvre pas le code sous-jacent à la nature. On ne peut pas être pythagoricien. Et ce qui fait qu'il y a une espèce d'indifférence, ce que j'appellerais un indifférentiel, c'est-à-dire que tout est considéré la même chose selon la même échelle de valeur. Et c'est encore une décomposition. Le binaire, c'est on décompose les choses. Alors, très rapidement, je passe sur tout ça, mais globalement, c'est aussi fondé sur l'idée que l'ordinateur, bah, c'est la première machine qui va découper la matière et le code, le hardware et le software. C'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur, vous ne savez pas à quoi il va vous servir. Quand vous achetez un marteau, vous savez à quoi il va vous servir. Quand vous achetez un ordinateur, il suffit de changer le logiciel pour changer sa fonction. Et c'est la première fois que ça existe. Pourquoi ? Parce que l'invention de l'ordinateur numérique, c'est le fait qu'on a la même machine, on change le code dedans, et ça change la fonction de la machine. Et ça, c'est pour ça que ça a un peu tout intérêt, potentiellement. C'est une machine du possible, c'est pas une machine nouvelle. Ça va servir à un autre phénomène, bien évidemment, qui est un autre flux, qui est Internet, le web, plus exactement le web, tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Il faut comprendre que le code informatique et le web, c'est un peu la même chose, parce qu'au début, le code informatique, c'était fait pour le téléphone. Alors, l'invention du code, c'est le téléphone. Au début, la cybernétique, c'est pour traiter des questions de voix, donc on est un peu... Et que les voix du réseau du web, c'est les mêmes que les voix du téléphone. Finalement, le câblage concret, c'est... Alors, très rapidement, sur ça, sur le web, j'ai pas le temps de le développer, c'est vrai que c'est une de mes spécialités, mais... le web, c'est assez étonnant parce que c'est une machine, comme on voudrait, rhizomatique, non hiérarchique, mais où la domination s'est transformée en réseau. La domination aujourd'hui, c'est la décentralisation et le rhizome. Donc les figures anciennes de la résistance à la domination sont devenues des figures de la domination, par une transformation technique, me semble-t-il. Et pourquoi ? Parce que Internet, ça fonctionne avec des protocoles, c'est-à-dire c'est des langages qui permettent de faire fonctionner ensemble différents langages. Donc ça rend compatible des flux différents entre eux. Il faut des protocoles. D'ailleurs, juste pour vous en parler concrètement, un protocole, un standard, un format, on utilise tous des formats, AWS ou JPEG. Ce qui est très bizarre, c'est qu'un format, normalement, ça formate. C'est pour faire la même chose, ça homogénise. Et aujourd'hui, les conditions de possibilité de la création, c'est des formats. Donc tout, ce qui est très étonnant, c'est en termes de langage, tout ce qui relevait du formatage, de la standardisation, c'est ça qui aujourd'hui permet l'individuation ou la singularisation. Il y a comme une espèce d'inversion. Comme aujourd'hui, les standards, ça ne standardise pas. Depuis le pop art, on sait que les standards ne standardisent pas. D'où d'ailleurs, juste, puisqu'à un moment on parlait de Space Invaders, c'est ces gens comme J.R., Bansky, etc., toutes les formes de création qui relevaient soi-disant de la résistance sont devenues des outils de la domination, clairement. J.R., il est chez Corentin, bon, c'est pas un punk, mais on s'en fout, de toute façon, les punks, ils sont jamais. Alors, la conséquence la plus visible de ça, c'est que sur Internet, s'est créé un flux inimaginable. On peut appeler le big data, moi j'appelle ça la mémoire des anonymes. C'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire humaine, on se souvient de la vie des anonymes, c'est-à-dire de nous. Avant, dans le passé, l'histoire des êtres humains, c'était l'histoire de quelques-uns. Des artistes qui parlent au nom des autres, des politiques, des scientifiques. Aujourd'hui, il y a une espèce d'hypermnésie, hein, on sait bien, avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, qui fait qu'on enregistre tout dans ces bases de données. Avec la question qui reste en suspens, que feront les historiens dans 100 ans de cette histoire? Est-ce que ce sera considéré comme une histoire? S'ils peuvent reconstituer les graphes sociaux de chacun d'entre nous à travers nos échanges sur Internet, qu'est-ce que ça voudrait dire que raconter l'histoire historique? Et ces archives-là, on les avait, à ma connaissance, jamais eues auparavant. Donc il y a un changement même dans la constitution de l'histoire. Et puis ça pose aussi la question, quelle est la place, pour moi, des artistes qui parlaient auparavant au nom de ceux qui n'étaient pas mémorisés. Maintenant qu'ils sont mémorisés, quelle est la place de l'art? Elle n'est pas évidente. Dernière étape de cette époque je parle un peu tout de même de ce dont je devais parler, qui est l'application de l'intelligence artificielle à de nouvelles choses. Avec un phénomène depuis 2015, même si le code était connu depuis longtemps, mais avec un phénomène très très étonnant, parce qu'on ne savait pas très bien pourquoi on faisait du big data finalement. L'idée que les entreprises allaient dépenser des millions de data, des millions de dollars pour mémoriser nos mémoires, bon, si c'est pour faire juste du marketing, c'est pas évident, quoi. Et en fin de compte, on vient de comprendre que toutes ces données servent à nourrir les machines pour qu'ils apprennent, pour que ces machines apprennent à faire des choses qui ressemblent aux données qu'on y a mises. Alors ça, c'est un exemple. C'est un exemple d'oiseau, c'est-à-dire qu'en rentrant, quelques milliers d'images d'oiseaux, on arrive à faire des images qui ressemblent à des oiseaux, mais qui n'existent pas. Et ça, donc la machine aujourd'hui, avant on n'arrivait pas à faire ça, on faisait de la génération, on faisait la génération d'images, on faisait du collage, on faisait du vectoriel, on faisait des images de points, mais on n'arrivait pas à faire du photoréalisme. Maintenant on y arrive, donc on arrive à générer, à partir d'une base de données, on arrive à générer la suite de la base de données qu'on reconnaîtrait comme appartenant à la base de données, qu'un être humain reconnaîtrait comme appartenant à la base de données, et là c'est encore plus subtil puisqu'on rentre une description textuelle. Par exemple, un oiseau qui est petit, noir, etc. Et la machine va générer quelque chose qui correspond à ce qui a été écrit. Elle va générer un oiseau de la catégorie qu'on a demandé. Donc ça, c'est les réseaux récursifs de neurones, les Generative Adversarial Network, les Provisional Neural Network, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je n'entrerai pas dans le débat d'intelligence artificielle. C'est un mot que je n'aime pas, je trouve qu'il est un peu illogique. Je parlerai plutôt d'imagination artificielle, d'imagination au sens de la production des images. Et ça, c'est lié au fait qu'avec le big data, on a beaucoup, beaucoup de données qui permettent de nourrir les machines. Et ça, c'est utilisé à très, très grande échelle, par exemple par Facebook. Par exemple, vous mettez une image sur Facebook et vous voyez, avant qu'elle ne s'affiche, l'image contient peut-être deux points et un descriptif, c'est une intelligence artificielle. Alors, ça forme une rupture historique, un glissement historique extrêmement important, qui est que si les machines sont capables de produire à partir de ce que nous avons produit, le flux de production des représentations devient infini. Donc on voit, non pas un flux, mais une fluidité, une nouvelle fluidité qui apparaît, qui est assez surprenante. Ça s'applique très bien à tout, hein, au texte, à la musique, etc. Et les résultats sont de plus en plus surprenants. Alors je vous montre un autre projet qui ne se montre pas, et c'est bien dommage. Donc je vais essayer de montrer tout de même. Tour de magie. Ah, voilà. Donc là, en fin de compte, c'est un projet d'un universitaire japonais qui avaient fait différentes expérimentations sur les lecteurs neurologiques, avec les ondes alpha et bêta. Donc, je vous explique le protocole. C'est un peu compliqué, mais c'est passionnant. Donc, ils font voir à 500 personnes plein d'images. Ils détectent les ondes du cerveau et ils font un tableau de correspondance entre les ondes du cerveau et ce que voient les gens. C'est pas bien optique, hein, c'est les ondes du cerveau. Ensuite, ils montrent cette image à quelqu'un, par exemple c'est hop, et ils lui mettent un casque, et ensuite ils génèrent une image à partir des ondes. C'est-à-dire qu'ils disent telle onde, ça correspond à telle image. Et donc ils génèrent. Et ce qui est hallucinant, c'est que ce qui apparaît comme image, c'est une image qui ressemble à ce que voit la personne. Et ça passe pas par le nerf optique. Donc ça rend possible aujourd'hui, c'est leur prochaine étape, le fait de visualiser les rêves. Il y a un truc pour ne pas faire longtemps. Et ça, c'est avec ces réseaux possibles de neurones. Donc et ce qui est assez beau là-dedans, formellement, c'est le caractère très impressionniste de l'image et le fait qu'on voit une genèse d'image, qu'on voit une image en train de naître. On voit une image en flux. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, elle coule, elle part, elle est un flux. Et je pense que fondamentalement, c'est pas le fait du hasard. Là, on voit la forme qui apparaît. C'est pas exactement la même chose. Et c'est des images plastiquement qui me semblent très intéressantes. Et puis, pour quasiment finir, tout de même un tout petit projet que je suis en train de faire pour l'été prochain au Palais de Tokyo. Donc, j'ai nourri un réseau récursif de neurones avec des photographies satellites. Et la machine m'a produit des photographies satellites de planètes qui n'existent pas. Et donc, je suis en train de créer une seconde Terre à partir de toutes les données de la Terre. Donc, je l'ai fait pour les animaux, pour plein de choses. Et je suis en train de peupler cette Terre. Donc une Terre qui ressemblerait à la nôtre, mais qui n'est pas totalement identique, qui est un peu différente. Voilà. Pour conclure, je pense que j'aurais conclu dans 3 minutes, donc je pense que je tiens à peu près mes délais. Je finirai par l'extinction, qui est un peu l'un de mes thèmes actuels. Moi, je ne crois pas au Holocène, je ne crois pas à l'effondrement. Je pense que l'effondrement, c'est une période de l'extinction dans laquelle on est engagé actuellement. Je vais essayer de... Donc, Balzac, sur les flux. Je ne parle pas pour les gens habitués à trouver de la sagesse dans la feuille qui tombe, des problèmes gigantesques dans la fumée qui s'élève, des théories dans les vibrations de la lumière, de la pensée dans les marbres, et le plus horrible, des mouvements dans l'immobilité. Ça, c'est un vrai flux. Je vais vous en parler. Je me place au point précis où la science touche à la folie et je ne puis mettre de garde-fou. Sur l'extinction, j'avais en 2014 fait au Musée d'art contemporain de Taipei un projet dont je vous montre une toute petite partie qui s'appelle Télofossile. Téléfossile, c'est les fossiles de la faim, et ça consistait tout simplement à dire, comme l'espèce humaine va disparaître, pas nécessairement à cause du réchauffement climatique, mais de toute façon, les espèces, elles naissent et elles disparaissent, on disparaîtra, qu'est-ce que trouverait notre intelligence sur notre Terre, une fois qu'on aura disparu? Et si elle creuse la Terre, notre époque, j'en reviendrai après, notre époque serait surreprésentée à cause du productivisme qui répond au consumérisme. C'est-à-dire que nous avons produit beaucoup, beaucoup de fossiles, en fin de compte. Nous ne savons pas, mais tous les objets que nous produisons, comme vous le savez, ces objets ils viennent de la Terre, en général, c'est de la transformation de matière terrestre. Ils ont mis des millions d'années à être faits. Comme vous le savez, le pétrole, c'est des cadavres. C'est de la matière organique. Ça met des millions d'années à être fait. On l'utilise pendant, 10 ans, et après, on le réenfouit sous Terre, et ça revient au cycle géologique. Donc, il y a une espèce, aujourd'hui, on comprend de plus en plus la technique, comme... selon un principe géologique de grands cycles de millions d'années. Et donc, notre époque, la dernière, serait surreprésentée avec là un clavier. Il y a, j'aurais pas le temps de le développer, mais je propose ça à votre sagacité intellectuelle, 3 rythmes des flux, parce que le flux, c'est un rythme. L'influx, c'est l'origine du flux, c'est là d'où ça part. L'afflux, c'est quand il y a un excès. Et le reflux, c'est quand il n'y a plus de flux, ou ça s'arrête en voie. Et les 3 fonctionnent toujours ensemble. Il y a toujours les 3. S'il n'y a pas les 3, s'il n'y a que de l'afflux, là on parle de fluidité de Startup Nation. Le fait que la croissance, on veut un développement infini de la croissance, c'est de l'afflux, c'est de l'afflux. C'est donc de la fluidité, ce n'est pas des flux. Les flux, c'est toujours la polarité, le passage entre les 3. Et c'est pour ça que ça nous enthousiasme et en même temps ça nous fait peur. Donc, sur l'extinction, je finis. Donc je préfère la notion d'extinction à celle d'effondrement parce que les civilisations depuis les Égyptiens n'arrêtent pas de raconter leur extinction. Toute civilisation raconte son extinction et peut-être que là, peut-être le design n'aura eu comme mission que de raconter la fin des civilisations qu'est-ce qu'on laissera après. C'est tout de même la grande idée. Et l'image finale de cette extinction, bizarrement, c'est une Terre sans êtres humains, peut-être sans espèces vivantes, parce qu'on va entraîner au-dessus de tout le reste. Une Terre revenue à sa minéralité, balayée par des vents d'ammoniac ou d'autres choses. Et qu'est-ce que serait cette Terre sans témoins, sans personne pour dire cette Terre ? Roger Caillois a écrit un texte que vous connaissez sûrement, qui s'appelle L'écriture des pierres, un texte magnifique, où il avait une collection de pierres, et quand il ouvrait ces pierres, il voyait des choses écrites. Et il écrit des choses comme ça, presque toujours, quand il parle de ces pierres. Il s'agit d'une ressemblance inattendue, improbable et pourtant naturelle, qui provoque la fascination. De toute façon, les pierres possèdent on ne sait quoi de grave, de fixe et d'extrême, d'impérissable et de déjà péri. Elles séduisent par une beauté propre, infaillible, immédiate, qui ne doit de compte à personne. Donc c'est cette absence de témoin, cette absence d'être humain. Et il ajoute plus loin, ce que les pierres présentent, c'est que les pierres présentent quelque chose d'évidemment accompli, sans toutefois qu'il y entre ni invention, ni talent, ni industrie. Rien qui en ferait une œuvre au sens humain du mot, et encore moins une œuvre d'art. L'œuvre vient ensuite, il faut qu'il existe une beauté, qui est justement cette terre inhabitée, générale, antérieure, plus vaste que celle dont l'homme a l'intuition, où il trouve sa joie et qu'il est fier de le produire à son tour. Je vous remercie.
Dans toute cette recherche, quelle est la place pour les flux intermittents, que ce soit dans le corps, que ce soit dans les volcans, la lave, le cœur de la mer, les fontaines intermittentes, comme la fontaine de Toulouse. Et le deuxième mot, c'est histoire. Comment est-ce qu'on dit flux en chinois, en japonais, en mongol? Ce mot aurait besoin d'être traduit et étudié dans des textes bien spécifiques, par exemple Jean-Baptiste Béguet, de civilisation ou de culture, qui ne sont absolument pas les nôtres, mais qui n'apparaissaient ici qu'à travers la Grèce, etc. Donc en Inde aussi, tout ça. Alors, merci.
Pardon. Alors, vas-y.
Bon. Oui, c'est bon. Alors, je vais vous répondre à votre question. D'abord, sur la première, dans mon propos, effectivement, j'ai essayé de distinguer fluidité, c'est-à-dire le discours de la fluidité continuelle, etc., l'idée du continuel dans le sens commun, avec la réalité des flux, et effectivement, les flux, il y a toujours du reflux. Il y a toujours de l'interruption. Il y a toujours ça. Quand je vous donnais l'exemple de l'Égypte, alors sur la Grèce, je n'ai pas eu le temps de complètement développer, mais il y a aussi Athènes. C'est-à-dire que les Athéniens ont compris, vous voyez la configuration d'Athènes en cuvette, c'est-à-dire qu'ils ont compris un phénomène, les Athéniens ont compris un phénomène très tôt important, qui est l'érosion, qui est le fait que quand il pleut beaucoup, ça entraîne de la sécheresse. Ça assèche les sols. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a une idéologie de la fluidité aujourd'hui qui s'oppose à la réalité des flux, qui sont effectivement interrompants aussi. On ne peut pas séparer ce qui coule et ce qui interrompt. Donc, je suis totalement dans votre sens. Deuxième élément, sur la deuxième question, alors bien évidemment, mon exposé était court, et je pense relativement dense, j'en suis désolé. Il se trouve que j'ai travaillé sur cette dimension postcoloniale et temporelle, d'autres géographies, et en particulier sur les flux au Japon, avec l'école de Kyoto, donc on ne peut pas étudier tous les flux. Moi, je ne voulais pas étudier tous les flux, mais effectivement, il y a des théories du flux, entre autres en Orient, qui sont très différentes, mais là j'ai limité mon propos très clairement à la civilisation occidentale, très clairement.
Est-ce
très
que
clairement.
Juste parler
voilà, mais c'est un choix.
Le barrage de la mer de Jette, par exemple.
Comment ?
Le barrage de la mer de Jette
en Inde. Non, tout à fait. Non. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Je veux dire, les flux, c'est un phénomène. Non, mais parler très simplement. c'est un phénomène qui existe partout et qui est fondateur des civilisations. D'ailleurs, les mythes, les récits d'origine sont souvent liés à des récits de flux, l'eau primaire, etc. Bon. Donc c'est vrai qu'on pourrait étudier de manière comparative, moi je l'ai fait à ma mesure en comparant l'Occident et le Japon, mais on pourrait prendre d'autres pays, on ne peut pas faire et effectivement, on peut comparer ça dans différents pays, de voir comment les civilisations se sont appropriées cette question des flux. Effectivement, je suis d'accord. Là, mon propos était limité en 46 minutes. Voilà. Mais vous avez raison.
Bonjour. Je suis là. Arthur, donc moi c'est la première fois que je viens à Lure et j'ai entendu plusieurs fois cette semaine, tiens, c'est sage, c'est calme cette année, pas trop de conférences qui prêtent à débat, polémique. C'est maintenant. Moi j'ai une liste assez longue de choses avec lesquelles j'ai de gros problèmes dans ce que vous avez dit. Et je ne vais pas m'aventurer à parler de ce que je ne connais pas, mais je vais faire quatre petites remarques et j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu plus. Je vais commencer par la fin. Faire de l'histoire à partir de nos graphes sociaux une nouveauté radicale pour l'histoire. La République des lettres, les échanges épistolaires des savants, c'est une ébauche de ça qui date il y a bien longtemps. Le fait de laisser des traces dans la communication, de reconstruire des réseaux intellectuels à partir de lettres, d'articles, de présence dans des salons, de publications, de reconstruction à partir de traces, voilà. C'est pas quelque chose qui est une nouveauté radicale. En remontant d'un cran Internet et Web, on entend souvent la confusion entre Internet et Web. Internet, c'est l'infrastructure, le Web, c'est... Voilà, c'est un peu comme, bon, ça, je pense que vous le savez, simplement, la contrainte de temps fait que des fois, vous avez fait des raccourcis, donc peut-être, dans le flot du discours, peut-être la confusion. Moi, j'ai entendu quelque chose... Le Web est, pour moi, très loin d'être décentralisé, décentralisateur. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement centralisé, où les standards ont un poids très fort. Le réseau et l'infrastructure, pour moi, ils ont une... Ils impliquent des propriétaires, des décideurs et beaucoup de choses qui sont unilatérales, dans lesquelles, pour moi, la décentralisation, elle a absolument plus trop beau. Et économiquement, on sait depuis très longtemps que le web, c'est un oligopole à franges, donc c'est pas du tout quelque chose de décentralisé, c'est au contraire. Voilà. Je remonte encore d'un cran, mes études de chimie sont loin, mais il me semble qu'on peut pas dire d'un côté que le Rhin, c'est de l'énergie potentielle, et de l'autre côté, on peut dire que la matière se transforme en énergie qu'elle ne serait pas, parce que le mouvement... des molécules et des atomes, c'est de l'énergie, donc dans la matière, c'est de l'énergie, voilà. Et pour finir sur ce sur quoi je bosse actuellement, parce que, voilà, je suis désolé, c'est un peu catalogue de doléances.
Non, 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 je vais essayer, parce qu'il y a vraiment des réponses. Hein.
Mais sur l'Égypte, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est une civilisation qui est basée sur la maîtrise du flux, et là, il y avait quelque chose qui était... Enfin, c'est passionnant, c'était agréable de vous en entendre parler. Par contre, sur l'immortalité... Moi, je suis pas d'accord. Je pense que l'immortalité, elle se base sur le couple monument-document. Et quand on parle de codage, l'immortalité des Égyptiens, dans la monumentalité de la pyramide et l'inscription des hiéroglyphes, voilà.
Alors, je vais essayer de répondre rapidement pour me souvenir. J'ai une mémoire très, très à court terme. Donc, sur le premier élément qui était la question de la nouveauté de la mémoire des anonymes, alors, soyons bien d'accord, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de mémoire avant, ou qu'il n'y avait pas de document d'archives, ou qu'il n'y avait pas de documentation sociale. J'ai parlé des anonymes. Or là, ce dont vous m'avez parlé, c'est justement de la mémoire des non-anonymes, c'est-à-dire d'une élite. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que, d'un point de vue politique, ce qui change aujourd'hui, d'abord, il n'y a jamais de nouveauté radicale. Vous avez pu entendre chez moi un nouveau radical, c'était par manque de temps. C'est toujours des glissements d'une période à une autre. Il y a toujours un mélange de nouveautés, de traditions, et essayer de voir le partage entre les deux. Ça va de soi. Mais ce qui est relativement nouveau, tout de même, et moi, ce qui m'interroge, c'est le côté anonyme, c'est-à-dire le fait d'avoir des milliards de gens dont c'est la mémoire. Et là, la question de la quantité change la qualité, fondamentalement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas du tout le fait que les graphes sociaux, c'est nouveau. Non, bien sûr que non. On peut en reconstituer depuis les Égyptiens. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la quantité. Et cette quantité-là, elle change. Parce que l'histoire, c'est pas un phénomène réel. L'histoire, c'est une construction culturelle. Et le fait de raconter l'histoire, elle n'existe pas. C'est un récit, l'histoire. Le fait de raconter l'histoire, de constituer l'histoire, c'était sur le partage entre anonymes et personnes célèbres, connues. Voilà, c'est ça le changement. Et là, il y a un vrai changement. Donc c'est la question de la quantité qui nous change la qualité. Deuxième chose, sur le web, Internet, alors je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais c'est pour ça que j'ai dit Internet, et tout de suite, je me suis surpris, je me suis dit, là, je parle du web. Bon. Parce que bien évidemment, je suis très au fait de ces distinctions-là. Genre, je ne suis pas d'accord sur le rapport décentralisation-domination. J'ai d'ailleurs dit dans mon propos que les formes rhizomatiques, déconcentrées, c'était la domination. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de protocoles de Jeanne Baker et Galloway, qui fait le point sur cette question de manière absolument parfaite, et qui montre comment une infrastructure décentralisée, liée au capitalisme ou néolibéralisme, permet des formes de domination. Je n'ai pas parlé du tout de décentralisation comme un potentiel émancipatoire. Pas du tout. Pour moi, l'émancipation, elle ne passe pas par la décentralisation. Bon, après, sur l'infrastructure du web, il faudrait distinguer l'infrastructure matérielle, qui est en partie décentralisée, les instances de normalisation qui sont décentralisées, hein, le W3C, j'en ai fait partie, quoi, j'ai siégé à W3C, et reste décentralisé, et après le pouvoir du capital qui, de la Silicon Valley qui s'approprie ça. Il faudrait distinguer infrastructure, structure économique, etc. Après, pour moi, le web, c'est le régime de la domination actuelle. Sur ça, je suis dans pareil. L'avant-dernier point qui était sur la chimie, alors là, la seule différence, on ne va pas rentrer dans ce débat, la seule différence, c'est que moi, je ne crois pas au réalisme scientifique. Je ne pense pas que la science décrit la réalité. Hein, bon, ça, c'est l'épistémologie de base. C'est-à-dire que quand vous dites, c'est comme ça que j'ai compris, quand vous dites quand dans la matière, il y a de l'énergie, bon, c'est la science et une certaine théorie qui met en œuvre le pouvoir libératoire de l'énergie dans la matière, et ça passe par une opération humaine qui est technique. Et la technique, c'est quelque chose qui est une idéologie qui s'incarne dans une matière. Bon. Donc, on peut tout à fait avoir dans la technique un phénomène qui est matériel, mais en même temps qui est idéologique et qui transforme la Terre, la géologie, etc. Le fait de considérer toute chose comme matière et d'utiliser toute chose comme matière, ça change notre environnement de vie et notre manière de concevoir la réalité. Et le premier élément sur les Égyptiens, etc. Là, je faisais un lien entre le Nil et l'immortalité. D'abord sur le fait que, évidemment, mais ça me semble relever du truisme, le fait qu'il se soit fondé sur le Nil, qui pouvait amener la vie et la mort, qui amenait simultanément la vie et la mort, de fait, ça a eu une influence sur leur spiritualité, sur leur théologie. Et puis, il n'y a pas qu'une seule cause à l'immortalité égyptienne. Et puis, la deuxième chose, c'est que de manière, pour le coup, très concrète, pas la maîtrise des flux du Nil, parce qu'ils n'ont jamais maîtrisé le Nil, ils ont vécu avec le Nil, c'est un peu différent, ils n'ont pas maîtrisé, on va parler de la crue du Nil, ils l'ont utilisé. Ce qui se passe, c'est que c'est l'usage de la crue du Nil et des flux du Nil qui ont permis la richesse et l'élaboration concrète de leur immortalité. Sans tous ces moyens économiques, ils n'auraient pas pu construire les pyramides. Donc c'est beaucoup plus, pour le coup, c'était aussi un raisonnement un peu plus matérialiste et économique. Après, je pense que l'Égypte, là, c'est très naturel, il y a plusieurs raisons qu'il faudrait articuler les unes aux autres, mais il aurait fallu un exposé spécifique sur ce sujet. Aussi de manière très courte. On va manger ?
Non, pas encore.
On a un peu de temps. Un petit peu.
Désolé, puis moi j'ai plein de questions aussi. Je vais être fatigué. Non, j'ai 3-4 points, mais le premier, c'est juste aussi une remarque par rapport à ce qu'a dit Annie sur comparer. Je trouve que quand tu fais la part belle aux cités, en fait.
Comment ?
Tu fais la part belle au début aux cités, aux villes. Et du coup, tu fais la part belle j'ai écrit sédimentation, mais c'est pas ça, à la sédentarisation. Ça serait intéressant de voir dans des peuples nomades comment ils pensaient plus. Ça, c'est une remarque. Après, je vais arriver sur des sujets que je connais un peu mieux que le nomadisme, qui est l'informatique. Et du coup, c'est vrai, j'ai deux, trois remarques. Alors, quand tu dis effectivement que la différence entre hardware et software, la force de l'informatique, c'est que on ouvre un ordinateur, on ne sait pas à quoi il va nous servir. La forme même ne dit rien sur l'usage. C'est dans la couche logicielle qu'on va pouvoir spécifier l'usage. Le mot intéressant ici, c'est universel, en fait. C'est-à-dire que Turing fait une machine qu'il appelle universelle. Et du coup, ça permet aussi, je pense, de rebrancher avec toute une tradition scientifique, de trouver ce qu'on appelait à un moment la grande clé, c'est-à-dire une espèce de loi unique par laquelle on peut résumer les phénomènes physiques, biologiques, etc., etc. Et là, je pense que du coup, tu peux historiciser beaucoup cette idée-là à travers l'idée d'universalisme. Et après, j'ai quand même une remarque. Je trouve que tu as oublié un truc. Non, mais qui est important, parce que je vais te dire après. À un moment, tu te dis, ouais, le code, c'est du binaire allié avec la vitesse. Alors, moi, je pense que c'est pas exactement ça. Le code, c'est une transcription graphique des flux électroniques. Et c'est pas la même chose. Parce qu'on a besoin d'une transcription graphique, parce que comme tu l'as très bien dit, nous, si on touche un disque dur, ça ne nous dit rien. Et je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire que le code, tu as dit, c'est le binaire allié avec la vitesse. Mais l'informatique, c'est aussi la mémoire. C'est-à-dire que tous les textes de Turing, et après, quand Von Neumann fait des machines, il dit, mais comment on va faire ce truc de la mémoire? Parce que si j'ai pas une mémoire, je vais pas pouvoir calculer assez vite, et je vais pas pouvoir calculer assez de choses pour que ça soit intéressant, c'est-à-dire pour qu'on puisse remplacer des humains. Et du coup, la question de la mémoire, elle c'est plus du flux. C'est-à-dire que t'es quand même dans des logiques de stabilisation de trucs. Et je te...
Sinon, je peux parler. Oui, oui, c'est la même réponse, il y a trop d'informations.
Vas-y, par contre.
Tu vas voir, et après, tu pourras reprendre, il n'y a pas de souci. Alors, soyons bien d'accord, soyons justes. Hein. C'est 45 minutes de conférence, moi j'ai fait une thèse de doctorat de 700 pages sur le sujet.
Ah, bien sûr.
Donc, soyons bien d'accord. Donc, voilà, après, moi ce qui importe là, je ne vais pas te répondre point par point, parce que tu as raison. Sur la question sédentarisation, les sédentaires versus les nomades, c'est aussi une vraie question. Moi, c'est des terrains d'enquête que je fais. L'année dernière, j'étais chez les Wahana à Taluen, en Amazonie. Donc je m'intéresse aussi effectivement à ces questions, et c'est une question d'appropriation de techniques par des peuples qui ont été nomades, qui ont été sédentarisés, etc. Donc c'est des questions, toutes les questions postcoloniales, d'autres territorialités, pas occidentales, ça m'intéresse beaucoup. Là, je me suis concentré sur la cité, parce que je pense que ça a été l'endroit d'émergence des normes de nos sociétés. Voilà. Parce que les cités sont dominantes. Mais après, je suis entièrement d'accord, il faut absolument s'intéresser aux marques. C'est évident, c'est super important. Je travaille activement sur ces questions-là. Sur le code, etc., bien sûr, j'ai été très lapidaire. Alors, sur la question de la mémoire, la manière dont je problématiserais ça, parce que j'ai fait un énorme paquet sur la cybernétique, bien évidemment. Ce qui est intéressant dans la cybernétique, c'est dans l'origine, c'est-à-dire que c'est très bizarre, la cybernétique c'est effectivement l'origine de l'ordinateur, de la machine universelle, de cette fameuse machine universelle, qui s'appelait la machine universelle, qu'on peut relier effectivement à la zootechnique, puisque le projet de Descartes c'est le projet de la mathésis universaliste, la mathématique universelle. Si vous voulez que les animaux soient le ressort, c'est pour faire une mathématique universelle, donc c'est la même lignée. Ce qui est très intéressant quand on rentre dans le texte de la cybernétique, de Turing, de Neumann et de Finner, ce qui est avec Shannon, c'est d'abord leur divergence, c'est le fait aussi que ça a été à l'origine de l'informatique et en même temps ça a été abandonné. Et donc c'est une énorme réussite et un énorme échec en même temps, parce que c'est la seconde cybernétique qui a pris le dessus finalement. Et ce qui est génial dans la cybernétique, c'est qu'il y a une énorme discussion, entre autres, entre Turing. Turing ne se pose pas tellement la question de la mémoire, à ma connaissance, puisque pour lui, c'est une machine abstraite. Pour lui, la machine de Turing, ce n'est pas une machine à réaliser. C'est une machine de papier. C'est une machine totalement abstraite. Dans les textes, c'est très clair. C'est une machine purement spéculative qui n'a pas à être réalisée. C'est Wiener qui va créer avec la machine à canon l'une des premières machines à boucle de rétroaction. Et la grande question, la question des cybernétiques qui était passionnante, mais passionnante, c'est effectivement leur discussion sur est-ce qu'il faut privilégier le code abstrait, donc c'est Shannon, ou est-ce que c'est analogique, est-ce que c'est du matériel, est-ce que c'est de l'électricité, et qu'on retrouvera toujours au bout du bruit, finalement. Et il y a cette discussion-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Shannon qui va gagner la discussion, dans les faits, c'est-à-dire le code abstrait, sans bruit, non bruité. Mais qu'on sait aujourd'hui que c'est plutôt Finner qui avait raison, dans les faits, puisqu'on sait que quand il y a une machine, ça marche jamais, ça plante toujours, que l'accident n'est pas en dehors de la machine, elle fait partie du fonctionnement de la machine. Après, bien évidemment, sur la description de l'informatique, j'ai voulu traverser, je suis allé des Égyptiens jusqu'à après nous, donc c'est très lapidaire, il faudrait préciser chaque élément, bien évidemment, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est montrer que les flux, si Finkielkraut en parle, de cette façon-là, c'est qu'il n'y a pas réfléchi. Il ne sait pas ce que c'est. C'est ça que je voulais montrer. Donc plutôt problématiser les choses, et après, chacun peut le problématiser, et y ajouter les éléments qui sont nécessaires. Mais c'est de faire des flux un problème qui n'est pas un problème abstrait, mais qui est un problème politique concret, puisque quand on parle aujourd'hui de flux migratoires, ça pourrit la société française, ces questions-là. J'ai passé 10 ans au Canada et je suis effrayé de l'état de la société française. Et que si on ne comprend pas historiquement d'où ça vient, quels sont les réflexes de certaines personnes? Pourquoi ils ont peur des flux? Qu'est-ce qui leur fait peur automatiquement? Je crois qu'on n'arrivera pas à leur répondre politiquement. Voilà. Il y a aussi des questions, alors pour le coup, pour moi, qui sont très un peu terre à terre et politiques sur ça. Quand on parle de flux financier, de quoi on parle? Quand on parle de flux migratoire, de quoi on parle? etc. Et l'idée de le mettre dans une grande perspective historique, même si elle fuge, très lapidaire, et j'en suis fortement désolé.
Non, mais ça va.